Vous écoutez France Culture.
8h15 sur France Culture, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Ali Bedou.
Et ce matin, l'Iran, toujours donc l'économie iranienne.
Donc 30 ans après évidemment l'instauration de la République islamique, Feridoun Khavand, bonjour. Voilà, donc on vous entend un petit peu faiblement. Vous êtes économiste, vous êtes universitaire à Paris 5, René Descartes. Alors quelques repères, bien entendu. On va regarder la politique économique, ou plutôt les politiques économiques de l'Iran depuis 30 ans, sachant que des gouvernements successifs, évidemment, donc ont dirigé cette affaire, que l'économie régionale a évolué, que l'économie mondiale aussi a beaucoup évolué, sachant aussi que c'est un pays aujourd'hui de plus de 70 millions d'habitants, 88 prévus en 2025, que l'Iran s'était appuyé sur des classes moyennes, des élites, des classes supérieures bien sûr, que le pays est riche en pétrole, qu'il représente les deuxièmes réserves mondiales de gaz et que son commerce extérieur a été entravé par des sanctions internationales, notamment les sanctions américaines. Alors, juste d'un mot, donc, en fait, quelles ont été les différentes politiques économiques quand on les regarde 30 ans après ?
Alors, il y a eu plusieurs tentatives de réforme après la révolution islamique. Dans un premier temps, le régime a instauré plutôt une économie planifiée, centralisée, durant les 10 premières années de la révolution islamique. Et par la suite, il y a eu plusieurs tentatives. Mais d'une manière générale, si l'on compare le bilan économique de la République islamique avec les slogans de la révolution de 1979 dont elle est issue, le constat, à mon avis, est accablant. Le constat est également accablant si l'on compare l'Iran avec, par exemple, son voisin, la Turquie, mais aussi avec d'autres pays émergents. Les chefs révolutionnaires promettaient la lutte contre l'injustice, la corruption, ainsi que la transformation radicale de l'économie iranienne qui, à leurs yeux, comme vous avez dit, était dépendante et arriérée. D'ailleurs, la constitution du nouveau régime érige l'économie islamique en alternative aux modèles économiques laïcs. Aujourd'hui, en 2009, l'économie iranienne, malgré les atouts du pays qui sont considérables, vous les avez rappelés, demeure particulièrement fragile en raison notamment d'une dépendance excessive à l'égard du pétrole qui représente plus de 80% de la valeur des exportations et 65% des recettes budgétaires du pays. C'est pour cette raison que la chute spectaculaire du prix du pétrole depuis juillet 2008 pèse lourdement sur les finances du pays. Par ailleurs, 85% de l'appareil productif du pays est aujourd'hui dominé par l'État ou par les fondations politico-religieuses semi-publiques. Pour résumer, je dirais que 30 ans après la révolution islamique, l'Iran a une économie centralisée, fondée essentiellement sur l'exportation d'une seule matière première, et ce malgré les différentes tentatives de réforme pour améliorer les structures de cette économie.
Et Feridoun Khavand, je regardais tout à l'heure les chiffres de la Banque mondiale 2007, les grands chiffres. Le PIB, en fait, situe l'Iran entre l'Argentine et l'Afrique du Sud, à peu près le 29e rang. Mais alors, quand on regarde le PIB par tête et en parité de pouvoir d'achat, on tombe au 85e rang sur à peu près de 192 pays dans le monde.
Tout à fait. Vous avez dit à juste titre, l'Iran a des atouts très 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 importants. Mais pourtant, malgré cela, il n'y a pas eu de diversification de l'économie iranienne. Il y a eu plusieurs tentatives et l'Iran a eu donc durant ces 30 dernières années, il y a eu la mondialisation, l'insertion des économies en développement dans l'économie mondiale,
l'intégration régionale,
les investissements internationaux et par contre, l'Iran n'a pas pu profiter de cette situation et ce pays est resté essentiellement un pays en développement et attaché à une matière première, et d'où la situation du PIB du pays.
Alors, je regardais aussi donc les secteurs d'exportation, pétrole 80%, chimique et pétrochimique, fruits, évidemment tapis, etc., relativement peu, effectivement, peu diversifiés.
Tout à fait, tout à fait. Ce que l'on peut dire seulement au sujet des relations internationales de l'Iran, c'est que depuis l'instauration de la République islamique jusqu'à présent, la part de l'Asie dans le commerce extérieur de l'Iran n'a cessé d'augmenter, tout simplement parce que l'Iran avait des relations très très tendues, comme vous le savez, et a toujours des relations tendues avec les États-Unis, ainsi qu'avec l'Union européenne. Et cet isolement du pays à l'égard de la communauté internationale perd lourdement sur son économie. À l'heure actuelle, plus de 60% des exportations pétrolières du pays s'orientent vers l'Asie, 30% vers l'Europe, le reste vers d'autres régions. On peut dire que le Japon, la Chine et l'Union européenne sont les trois principales destinations du pétrole iranien. Mais d'une manière générale, le fait de ne pas avoir des relations avec le monde a empêché l'Iran d'améliorer les structures économiques de son pays, d'améliorer les structures de ses exportations et surtout d'accéder aux ressources nécessaires pour améliorer son potentiel économique. Le fait est que l'Iran, malgré ses richesses pétrolières et gazières très importantes, pour l'instant, effectivement, c'est toujours le deuxième pétrole, la deuxième puissance de l'OPEP, mais très loin derrière l'Arabie Saoudite.
Et alors aussi, quel regard portez-vous sur finalement l'efficacité des sanctions internationales et notamment des américaines? Dans quel poids est-ce que cela a justement pesé?
Moi, je pense que les sanctions ont eu un impact très important sur l'économie iranienne, mais les impacts des sanctions ont été dissimulés en quelque sorte par l'accroissement du prix du pétrole. Durant les quatre dernières années, l'Iran a eu une période faste en ce qui concerne les exportations pétrolières, et ces revenus considérables ont permis au gouvernement d'Ahmadinejad de cacher un peu les effets des sanctions. Aujourd'hui, avec la baisse du prix du pétrole, effectivement, ces effets apparaissent de plus en plus et démontrent que l'économie iranienne est lourdement, très lourdement frappée par la crise économique, accentuée par les effets de sanctions.
Alors, peut-être juste d'un mot, Feridoun Kavand, quand on regarde de grands éléments comme la croissance, comme l'endettement, comme le chômage, comme la population d'ailleurs apparemment importante en proportion qui vit en dessous du seuil de pauvreté, comment évoluent ces éléments finalement?
Écoutez, d'une manière générale, en ce qui concerne, ce qui frappe à l'heure actuelle la population iranienne, c'est l'inflation. L'inflation en Iran tourne, d'après les chiffres officiels, autour de 26%, d'après les experts indépendants, autour de 32-33%. Et l'Iran détient de ce point de vue le record de l'inflation au Moyen-Orient après l'Irak. Le taux de croissance est élevé, mais c'est une croissance uniquement fondée sur le pétrole. 6,5 à 7%, c'est bien entendu considérable, mais c'est une croissance qui n'est pas liée au mouvement interne de l'économie iranienne. Et le taux de chômage, d'après les chiffres officiels, tourne aux alentours de 11%, mais réellement, le vrai chiffre de chômage, c'est plutôt autour de 17-18%. Donc, dans l'ensemble de ces éléments, en particulier au seuil des élections présidentielles du mois de juin, pèse lourdement sur le bilan de Ahmadinejad et favorise ses concurrents. Mais le problème, c'est que les élections en Iran sont loin d'être libres.
D'accord. Donc on prendra date évidemment pour les élections donc de juin. Merci en tout cas, Feridoun Kavand, d'avoir tracé ce portrait économique de l'Iran 30 ans après la révolution islamique. On peut vous réécouter sur franceculture.com donc dans les 6 mois. On peut télécharger l'émission aujourd'hui même. Et comme nous sommes vendredi également, demain et après-demain. Et nous nous retrouvons lundi, Ali.
Autour de quel sujet ?
Avec un sujet un peu parent à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire à propos d'un sommet à Houston sur le pétrole, le prix du pétrole et la crise économique internationale. L'invité d'Éric Laurent sera Nicolas Sarkis.